That's jazz music you're listening to.
No, it's jazz. The place is roaring. All beautiful girls in there. One mad brunette at the bar, drunk with her boys. Give me fever. It's the beat to keep. It's the beat of the heart. That's the beat.
Bonsoir, bonsoir et bienvenue au Club Jazz à FIP, un Club Jazz à FIP encore plus léger que d'habitude, car il va être question de plumes ce soir. Une plume, ça volette, ça vous frôle, ça vous charme, ça vous échappe aussi un peu parfois. Une plume, c'est un peu une allégorie de la musique en fait. Et bien ce soir, FIP vous prête sa plume, ou plutôt son plume, car plume est le drôle de nom de notre invité spécial au club, invité que nous recevons avec Alexandre de Surmont. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir Gaëlle Renard, ravi de vous retrouver ce soir effectivement au Club Jazz à FIP pour recevoir ce talentueux saxophoniste alto Plume à l'occasion de ce premier album signé chez Jazz and People, Escaping the Dark Side. C'est notre CD de la semaine d'ailleurs au Club Jazz à FIP. Il est à nos côtés, accompagné de Simon Chivalon au piano, Luca Fattorini à la contrebasse et Antoine Paganotti à la batterie. On écoute le quartet sur une première composition intitulée Sick You Must. Thank you.
on laisse passer la note bleue, plume à l'instant au club Jazz à FIP. Plume est notre invité pour nous parler, entre autres choses, de son album sorti au début du mois d'avril, Escaping the Dark Side. Il va venir nous rejoindre ici à la table pour nous parler un peu. Il sera en concert, si vous voulez le retrouver en live autrement qu'à travers FIP et la radio. Vous pourrez le retrouver le 15 mai prochain au Duc des Lombards à Paris. Il sera aussi un peu plus tard, le 6 juillet, au Saint-Omer Jazz Festival.
Plume, bonsoir.
Bonsoir.
Ravi de vous avoir en votre compagnie. Hein, ce nouvel album, sorti le 5 avril. Alors, on va commencer par le commencement, le début. Vous, musicien, on a lu, vous avez essayé beaucoup d'instruments musicaux avant de jouer du sax alto.
Je sais pas si je
violon,
dirais que...
Violon, piano, ouais. Guitare...
En fait, ça n'a pas été toujours de mon plein gré, comme on dirait. Mes parents, ils sont tous les deux musiciens amateurs. Et quand j'étais enfant, ils m'ont mis très rapidement à la musique. Donc j'ai fait du violon à partir de l'âge de 3 ans pendant, on va dire, un ou deux ans. Ensuite, j'ai fait du piano enfant et ensuite classique aux États-Unis et puis en France. Je suis arrivé en France plus ou moins de manière définitive à l'âge de 9 ans.
Est-ce que vous êtes né aux États-Unis ?
Alors, je suis né aux États-Unis et entre ma naissance et mes 9 ans, j'ai fait des allers-retours quasiment tous les ans, tous les 2 ans. Mais j'ai passé la majorité de mon enfance aux États-Unis, dans l'État de Virginie. Et après, donc, le piano, j'ai fait de la guitare classique pendant assez longtemps avec un élève de André Segovia qui s'appelle Domenico Marando, qui était vraiment mon premier prof. Avec qui j'ai voulu étudier.
Et vous aviez un très bon niveau et vous avez donc décroché une bourse au Berklee College avec la guitare, c'est ça?
Oui, c'est bien ça.
Et puis, dans les mois qui ont précédé votre départ pour Boston, vous avez écouté des disques, c'est ça? Des disques de Coltrane?
Je sais plus exactement dans quel ordre ça s'est fait. Je sais qu'en fait, j'avais une copine quand j'étais au lycée qui avait une disco, comment on appelle ça, une discothèque.
Oui,
discothèque. De jazz. Et moi, à l'époque, j'écoutais pas beaucoup de jazz. J'écoutais la radio. Je crois d'ailleurs que j'ai commencé à faire du jazz en écoutant FIP.
Eh ben, écoutez,
c'est une bonne
base. Je crois que c'est ça. C'est-à-dire que, pour l'anecdote, je suis passé radicalement en fait du métal. Je faisais du métal à la guitare à l'époque. Et ensuite, je me suis lassé de faire cette musique à la guitare. Je faisais de la batterie en autodidacte et j'écoutais jazz à FIP à l'époque. J'ai commencé comme ça à m'intéresser au jazz et c'est ça qui m'a fait revenir vers la guitare ensuite. Et donc cet ami m'a passé des disques et c'est ça qui m'a fait flasher sur le saxophone. J'ai eu une genre de révélation en fait, c'est ça qui m'est arrivé. Donc le truc c'est que j'étais déjà boursier pour Berklee. J'avais pas vraiment le choix.
Le problème c'était que j'étais déjà boursier.
Mais je pouvais pas me désister, je pouvais pas dire je change d'instrument parce qu'une fois qu'on a une bourse en fait on est obligé de garder son...
Ouais. On va revenir justement sur Berklee, on va rester sur Berklee, Gaël. On va écouter juste un musicien, c'est un de vos choix d'ailleurs, c'est Walter Smith. Je crois que vous l'avez rencontré à Berklee.
Oui, bien voilà. Sûr, Walter en fait c'est un des premiers musiciens que j'ai rencontré là-bas.
Et ben, on écoute Walter Smith et puis on revient, on en discute.
Ça marche. Thank you.
Rise Coolish, c'était Walter Smith, un choix de notre invité au Club Jazz AFIP ce soir, Plume dont le premier album vient de sortir, un album sur lequel justement on retrouve un texte signé Walter Smith. C'est donc lui qui vous a fait les notes de l'album. Quel est votre rapport avec Walter Smith?
Walter, c'est un des premiers musiciens que j'ai rencontré quand je suis arrivé à Berkeley. Et il y a vraiment en fait un truc qui s'est passé, c'est-à-dire que bon, moi quand je suis parti là-bas, comme on disait tout à l'heure, j'avais une bourse pour être guitariste, mais j'ai eu une genre de révélation avant qui faisait que je voulais être saxophoniste. Mais je savais pas encore exactement vraiment ce que c'était la musique que je voulais faire. Et quand je suis arrivé là-bas, je passais pas mal de temps à me balader dans les dortoirs de l'école qui étaient au-dessus en fait de l'immeuble principal dans lequel se déroule la majorité des cours. Et je suis tombé donc... À tous les étages, il y a genre un espace pour s'entraîner, des cabines individuelles. Et je suis arrivé, et dans une de ces cabines individuelles, il y avait donc Walter Smith, il y avait Kendrick Scott, le batteur, un autre batteur de Philadelphie qui s'appelle Wayne Smith, un bassiste qui s'appelle Mark Kelly, qui joue avec les Roots maintenant, qui joue dans pas mal d'émissions, et Patrick Cornelius, aussi un super altiste. Et en fait, c'est à ce moment-là, quand j'ai vu ces gars jouer, que j'ai compris en fait que c'est ça la musique que je voulais faire. J'ai vraiment eu un clic en fait. Je suis resté complètement scotché, bouche bée, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, par ce que j'ai vu quoi. C'était vraiment genre, voilà.
Dans la pochette de l'album, il dit que vous êtes un incroyable bosseur. Il dit, en fait, je voyais tous les autres élèves aller s'amuser, sortir le soir. Il dit deux choses. Il dit que vous êtes un incroyable bosseur et que vous écoutez énormément les autres.
Peut-être qu'il voulait dire au niveau des conseils et des choses comme ça. Enfin, c'est vrai que moi, j'ai commencé le jazz très tard. Hein. J'ai commencé quand j'avais 17 ans. Donc moi, je trouve ça tard pour commencer un instrument. Et c'est tard aussi pour commencer un style de musique qui est assez complexe et qui nécessite finalement de se nourrir et de se cultiver les oreilles un maximum. Donc c'est vrai que je me suis retrouvé en face de plein de gars qui avaient une maturité musicale incroyable pour leur âge. Et, donc forcément, quand on est débutant, on ne peut qu'apprendre en écoutant.
Et en même temps, quand on écoute cet album, c'est un peu la remarque qu'on se fait, on sent énormément de respect des traditions. On sent l'histoire du jazz dans vos compositions. Vous avez attrapé finalement le retard comment ?
Je me suis complètement imbibé dedans, enfin un maximum depuis 20 ans, depuis ce moment-là. Je pense que je suis en train d'arriver à un moment dans ma vie maintenant où j'ai un peu envie de m'ouvrir à d'autres sources d'inspiration et un peu de renouer avec qui j'étais avant de faire du jazz. Mais c'est vrai que pendant 20 ans, j'ai écouté quasiment que des disques de jazz. J'ai passé la majorité de mon temps à bosser cette musique.
Alors, vous êtes aussi. Vous avez côtoyé, on en reviendra sur la scène du Wallis Café, on reviendra dessus, toute une génération finalement. Hein, Kendrick Scott, mais Christian Scott, Walter Smith, Ambrose Akinmusire. Ils ont tous finalement une discographie, 5 à 10 albums. Et puis vous, vous avez pris le temps, vous avez fait un album, c'est votre premier album cette année.
Ouais. Comment vous répondre? En fait, ce disque, ça fait très longtemps que j'aurais voulu le faire. Mais disons qu'à une époque, j'avais pas forcément. Je pense qu'au début, en fait, j'étais pas forcément prêt pour le faire. Je me disais, il faut que j'attende, il faut que je bosse plus, il faut que j'arrive à un meilleur niveau, entre guillemets. Et ensuite, quand j'avais les compositions et tout ça, que j'étais prêt pour faire l'album, j'avais pas forcément les moyens pour le faire. Je voyais pas comment réaliser le disque quand j'habitais à New York.
On parlait des anciens, et ben on va retrouver à l'instant au Club Jazz AFIP Miles Davis. On écoute Hand Jive, extrait de Nefertiti, sorti en 1967.
L'alternative.
Miles Davis en 67, année où il enregistre en juillet l'album Nefertiti, enregistré avec son second quintet. Hein. C'est le quatrième album d'ailleurs avec ce quintet, Plume. Même année que le troisième, c'était Sorcerer. Et vous souhaitiez nous faire écouter ce titre.
Pourquoi?
Pourquoi?
C'est la prise numéro 2 d'ailleurs. Hein.
Ouais, mais.
Blind Jive.
Non, c'est vrai que c'est la prise que je préfère au niveau du tempo, au niveau de l'énergie. Non, c'est vrai que pour moi, ce groupe, il est vachement important parce qu'il est vraiment à la base, en fait, je trouve, d'une sorte de naissance d'un nouveau style.
On cite les musiciens comme ça rapidement, on disait Ron Carter,
ouais,
Wayne Shorter.
Ouais, donc il y a Miles, Wayne Shorter, Herbie au piano, Ron Carter et Tony Williams à la batterie. Et pour moi, en fait, tous les gars qui sont dans ce groupe, en fait, ils ont vraiment innové un nouveau style par rapport à leur instrument et une certaine ouverture dans le jeu qui, pour moi en tout cas, alors peut-être que. Je sais pas, j'imagine qu'il y avait sûrement des gens qui le faisaient avant. Mais en tout cas, ce groupe-là, en fait, ça change la manière d'improviser ensemble et d'ouvrir la musique complètement.
C'est ce que vous avez voulu faire aussi. On dit que l'album a un son live. Votre album qui vient de sortir a un son assez live. Comment vous, c'était d'abord, est-ce que c'était voulu au départ ou est-ce que ça s'est trouvé comme ça ou
D'avoir un son live.
Oui, oui.
Disons que moi en fait j'ai toujours été un peu comment dire les situations d'enregistrement où on se trouve chacun dans une cabine, où on travaille avec un casque, on est devant un micro, j'ai toujours trouvé que c'était une manière un peu difficile de travailler parce que moi je suis quelqu'un qui a un certain rapport au son. J'aime sentir mon son se mélanger aux autres sons. Et à partir du moment où j'arrive à trouver un équilibre sonore, j'arrive à être à l'aise, à m'exprimer, à faire de la musique. Et c'est vrai que si j'ai pas ça, j'ai beaucoup de difficultés. Donc d'enregistrer en studio, dans des cabines, des choses comme ça, c'est vraiment pas facile. Ou dans des salles qui sont très très mat, par exemple. Et pour le coup, là, c'est vrai que sur le disque, on enregistre, on est tous dans la même salle. Donc après, il y a des petites partitions, des choses comme ça, mais il y a personne qui est dans une cabine, pour le coup.
Et bien, en tout
mais
cas,
c'est vrai que aussi, j'ai voulu que l'album soit aussi live que possible. Donc on a essayé de formater au minimum les morceaux et de laisser un maximum d'espace pour les surprises.
En tout cas, ce soir, on est tous dans le même studio, le studio du Club Jazz à FIP. Plume, on vous invite à rejoindre vos musiciens, Simon Chivalon au piano, Lucas Fattorini à la contrebasse et Antoine Paganotti à la batterie. Le quartet va nous interpréter
le titre qui a donné son nom à l'album d'ailleurs, Escaping the Dark Side, extrait donc du dernier album, premier et dernier album en date de Plume qui est notre invité au Club Jazz à FIP, que vous pourrez écouter en live très prochainement puisqu'il sera le 15 mai avec son quartet au Duc des Lombards et le 6 juillet au Saint-Omer Jazz Festival.
On a tout dit, on a plus qu'à les écouter. Le quartet de Plume, c'est à vous au Club Jazz à FIP.
Bravo messieurs, un club jazzafi FIP tout en sax et tout en légèreté ce soir. Nous recevons Plume pour la sortie de son album Escaping the Dark Side. C'est d'ailleurs le titre que nous écoutions à l'instant. On va laisser Plume venir nous rejoindre et peut-être reparler des musiciens qui nous accompagnent ce soir au piano. Nous avons Simon Chivalon, à la contrebasse Luca Fattorini et à la batterie Antoine Paganotti.
Plume, alors cet album composé de... Il y a 8 compositions. Hein. Alors, des compositions originales, elles sont signées toutes, Two Plumes, avec un S. Donc, vous nous expliquez, vous étiez deux à composer, Plume et Plume. il y a une histoire
derrière. C'est là où ça va se compliquer un peu. Bon, en fait, moi, ça fait 20 ans qu'on m'appelle Plume. C'est un nom que j'ai hérité par mes amis quand j'étais au lycée. Et c'est resté, ça fait vraiment... entièrement partie de mon identité à présent. Mais par contre, comme c'est un nom qui est assez courant d'une certaine manière, enfin, je ne suis pas le seul Plume au monde, c'est vrai qu'il y a d'autres artistes qui s'appellent Plume. Et ce nom était déjà pris à la SACEM. Voilà, donc il a fallu réfléchir à une autre identité par rapport à la composition. Et bon, c'est assez bizarre en fait comment ce nom il est venu à exister. Mais en gros, quand j'habitais à New York, j'ai eu une phase où j'ai eu besoin de faire un petit break par rapport à la scène jazz et par rapport au jazz. Et j'avais besoin de développer autre chose en fait dans ma vie. Donc j'ai commencé à fréquenter des soirées qui faisaient partie du réseau de Burning Man. Je ne sais pas si vous connaissez Burning Man. C'est un des plus grands festivals d'art qui se déroule tous les ans depuis 86, je crois. Donc au moins 30 ans. Et ça se passe au milieu du désert, au Nevada, aux États-Unis. Et c'est un festival maintenant qui attire à peu près 50 000 personnes par an qui viennent s'installer dans le désert pendant une dizaine de jours. Et c'est un grand festival d'art. Et donc à New York, je connaissais des gens à travers mon immeuble qui faisaient partie de ce réseau. Et donc j'ai commencé à fréquenter des soirées Burning Man. Et c'est là où j'ai changé en fait mon nom sur...
Donc votre nom d'artiste est Plume et votre nom de compositeur c'est Plumes.
C'est tout Plumes.
Tout Plumes.
Et on reste un petit peu sur le travail d'écriture et de composition. Où se situe l'improvisation? Beaucoup de musiciens disent que l'improvisation est une composition instantanée. Vous partagez le point de vue. On sait que le jazz c'est aussi l'exercice de l'improvisation. Donc où se situe l'improvisation dans le travail d'écriture?
Dans le travail d'écriture?
Oui, très peu. Finalement, c'est quoi? Il y a un côté spontané dans l'écriture? Comment ça fonctionne de
c'est
composer
tellement, c'est tellement vaste comme sujet. Je pense que tout le monde a sa technique. Après, moi, je me considère pas, comment dire, quelqu'un qui... Je suis pas un compositeur prolifique, c'est comme ça qu'on dit. Genre quelqu'un qui écrit énormément de choses. Moi, j'ai plus tendance à avoir des idées qui vont me venir... J'ai souvent des idées qui me viennent, par contre j'arrive pas toujours à les terminer, mais quand vraiment j'ai un truc qui m'obsède, là par contre je vais vraiment passer beaucoup de temps à essayer de tout peaufiner. C'est vrai que j'écris des choses qui sont de nature assez simple en général, mais dans ce côté simple en fait je passe énormément de temps à justement, comme on disait tout à l'heure, par rapport à la sélection de musique
réfléchir
exactement au rythme et qu'est-ce que je veux et les couleurs et tout ça. Et ça, c'est vrai que finalement, je passe énormément de temps dans ce travail-là. Donc, les compositions, elles sont simples, mais le travail qui est derrière, pour moi, en tout cas, il est assez complexe par rapport à ça.
Et les titres des morceaux, c'est vous qui les trouvez? Comment vous les trouvez? Ils sont parfois même presque mystiques, enfin, Falling Angels, Escaping the Dark Side.
Escaping the Dark Side? Oui, bah tous les titres, oui, c'est moi qui les écris. Après, ça dépend, hein, ça dépend les pour chaque morceau. Comment dire? Chaque morceau, c'est vraiment sa propre histoire et son propre au moment où ça a été créé. Dans quel mood j'étais? Qu'est-ce que je venais de vivre auparavant? Donc, Escaping the Dark Side, ça fait justement référence à un épisode où je me suis trouvé dans un endroit un peu sombre. Et justement, je venais d'en sortir déjà, et j'ai écrit cette composition à ce moment-là. C'était un peu pour me rappeler. Donc voilà, quand on se trouve dans des endroits un peu sombres, des fois, il faut sauver sa peau, quoi.
Bon, Club Jazz à FIP avec Plume. Alors, l'exercice ce soir, Gaël, hein, c'est des choix musicaux de vous, Plume. Là, on va écouter Myron
Walden,
qui est un de mes compositeurs préférés. C'est un super compositeur.
Et on va écouter, que je retrouve ma feuille.
Eh bien, c'est As Night Falls, si on en parle juste après. Juste...
Myron Walden au Club Jazz Afip, extrait de l'album sorti en 99, Like a Flower Seeking the Sun. On continue de discuter avec Plume, notre invité de ce soir au Club Jazz Afip, pour la sortie de son album Escaping the Dark Side. Un album sur lequel Plume, on retrouve sur deux morceaux le
trompettiste.
Le trompettiste.
Ambrose Akinmusire.
Merci.
Alors on imagine que le trompettiste magnifique, un merveilleux trompettiste, a certainement énormément de sollicitations. Il est peu présent sur des albums et il est sur votre album. Est-ce que, d'une certaine façon, il y a une forme de pas de consécration, mais on est content quand même quand Ambrose, ok, pas de problème, je viens jouer quoi.
Non, c'était incroyable que Ambrose il a pu faire partie du disque. Ambrose, je le connais parce qu'il, à l'époque où donc j'habitais à Boston et je fréquentais Wally's et je jouais à Wally's, je crois qu'à l'époque, Ambrose, il habitait à New York. Et donc, il venait des fois, soit parce qu'il était de passage avec des groupes et ensuite il passait à la jam du dimanche ou au gig du vendredi et samedi. Et c'est vrai qu'à l'époque, donc moi, je jouais avec Jason Palmer là-bas, un autre excellent trompettiste. Et c'est vrai que quand Jason Palmer, il ne pouvait pas le faire, il demandait toujours à Ambrose ou à Josh Evans, qui habitait dans le Connecticut à ce moment-là, s'il pouvait venir. Donc c'est comme ça que je l'ai connu. Ça, c'était en 2002. Et voilà, on est resté en contact. Quand il vient jouer à Paris, j'essaie de passer le voir si je suis dispo. Quand j'habitais à New York, on se croisait, même dans les jams à l'époque. Souvent, assez souvent d'ailleurs, à l'époque où j'habitais là-bas. Et puis il se trouvait que ça coïncidait avec une tournée qu'il avait, le créneau qu'on voulait enregistrer le disque. Donc ça s'est fait comme ça.
C'est une relation que vous avez en commun avec Walter Smith aussi, parce qu'il jouait sur l'album qu'on a écouté en tout.
Alors Walter et Ambrose, ils se connaissent très très bien pour le coup. Moi, je connais ni l'un ni l'autre de la même manière, parce qu'ils ont collaboré ensemble. Ils ont été dans l'institut de la Monk Institute. Je sais pas si vous connaissez. C'est un programme aux États-Unis qui existe depuis 1995, qui prend un groupe d'élèves tous les 2 ans. Et donc ces élèves-là, en fait, ils jouent ensemble tous les jours. Ils sont obligés de composer, de bosser ensemble. Ils partent en tournée aussi avec Wayne, avec Herbie. Et c'est comme ça qu'ils se sont connus. Ils étaient dans la même promotion avec Joe Sanders. Je suis pas sûr. En tout cas, Joe Sanders, il a été aussi dedans.
Quel est votre regard sur le jazz aujourd'hui actuel? On le sent de plus en plus métissé. Quand on écoute un Christian Scott qui effectivement ouvre le jazz à la trap musique. Quand on écoute tout le courant du jazz en Angleterre. Quand on écoute un trompettiste comme Nils Peter Mulver qui enregistre avec la section rythmique jamaïcaine Sly and Robbie.
Ouais.
On a l'impression vraiment qu'aujourd'hui le jazz est ouvert à tout. Quoi.
Je pense que le problème dans tout ça, c'est vraiment les étiquettes au final. Parce qu'après, la musique, c'est juste de la musique. On n'a pas besoin vraiment de dire ça c'est du jazz, ça c'est pas du jazz. À partir du moment où on veut essayer de mettre des étiquettes dessus et de dire est-ce que ça c'est correct par rapport à ce qu'on attend de ce style de musique, c'est là où ça devient problématique et où on va rentrer dans des débats et des discussions politiques et intellectuelles qui finalement ne servent à rien. Enfin, moi, je pense que ce qui est important, c'est est-ce qu'on aime ou on n'aime pas, et puis c'est tout, quoi.
Qu'est-ce que vous écoutez, vous, aujourd'hui? On disait que lorsque vous étiez étudiant, vous écoutiez beaucoup les autres. Est-ce que vous continuez d'écouter beaucoup les autres, ou est-ce qu'il y a un moment où on est obligé de se protéger un peu pour garder son son?
Alors, c'est une bonne question, en effet, parce que je trouve que si on écoute trop les personnes qu'on aime vraiment, ça peut, en effet, nous aspirer comme du sable mouvant trop vers nos influences. Et je pense que ça arrive à n'importe quel musicien qui est passionné par quelqu'un de se retrouver dans une situation où il écoute tellement cette personne qu'en fait, au bout d'un moment, il va vouloir soit émuler cette personne de manière consciente ou peut-être de manière inconsciente. Mais par rapport à mon éducation de la musique, en tout cas, parce qu'on ne peut pas dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, à chacun libre de faire ce qu'il a envie de faire. Mais par rapport en tout cas à l'école dans laquelle moi j'ai appris la musique, ce qui est vraiment important, c'est de développer sa propre identité. Et c'est bien d'avoir des influences, mais après il ne faut pas se laisser dominer par ces influences.
Dévorer.
Parce que sinon on peut pas savoir qui on est. Et si on se raccroche trop à quelque chose qui existe déjà et qu'on essaie de copier ou de rentrer dans les... j'arrive pas à trouver l'expression en français, mais « go in the footsteps of... » en gros,
on peut pas
développer sa propre identité. Et ça devient un piège au bout d'un moment. Donc tous mes saxophonistes préférés, mes influences, que ce soit Coltrane, que ce soit Kenny Garrett, que ce soit Charlie Parker ou même Walter par exemple, c'est des gens que j'adore écouter, mais au bout d'un moment je suis juste obligé de dire stop, il faut que j'arrête d'écouter quoi, parce que sinon ça... Ouais.
Alors on va vous laisser vous installer hein, pour un dernier titre. Déjà. Au Club Jazz Afip, on écoute quand même quelques mots plume là, trompettiste hein, Darren Barrett. Il est prof au Berklee College.
Il est prof à Berklee, mais il n'y était pas quand moi j'étais. À l'époque où moi j'habitais à Boston, il jouait à Wally's Café.
Okay.
C'est comme ça que je le connais. Ensuite, Jason a repris le rôle de Darren là-bas et moi j'étais avec Jason. Mais je l'ai vu jouer d'innombrables fois.
Là-bas. Okay. Plein de fois.
Ouais, plein.
Darren Barrett, Up, Down, Inside Out.
Darren Barrett au Club Jazz Afip et on va terminer ce Club Jazz Afip qui a passé comme une flèche, comme une plume, j'allais dire. Club Jazz Afip avec plume que l'on retrouve en live avec ses musiciens ce soir. Et nous allons écouter pour terminer cette très belle chanson d'Hélène, pas celle à laquelle vous pensez. C'est une autre Hélène qui a inspiré cette chanson. Hélène's Song, on écoute plume au Club. Bravo monsieur, on peut applaudir. On n'est pas beaucoup dans le studio, il y a beaucoup de monde derrière la vitre, mais on peut les applaudir. Bravo, merci à vous. On rappelle le titre de cet album de Plume, le premier album, on espère que ce ne sera pas le dernier. Un message personnel qu'on envoie. Escaping the Dark Side, il est sorti au début du mois d'avril et vous pouvez évidemment le retrouver dans les bacs et puis les disques de la semaine, donc
le Zappi. Exactement Gaëlle, d'ailleurs.
Et c'est pas rien.
Et clairement, il y a un consensus de toute l'équipe de programmation et c'est assez rare autour de ce disque. C'est un très bon disque à avoir. Voilà. Il y a des dates de concert aussi, hein, Gaëlle.
Le 15 mai au Duc des Lombards à Paris, on y sera, et le 6 juillet au Saint-Omer Jazz Festival.
Merci à vous, Plume.
Mais merci, c'était un plaisir.
Merci à vos musiciens aussi qui vous ont accompagnés. Alors, Simon Chivalon au piano, Luca Fattorini à la contrebasse et Antoine Paganotti à la batterie.
On va remercier notre équipe, à nous aussi, notre quartet à nous aussi. Nicolas Delmas était à la prise de son ce soir, Maïwenn le géant au mix, Alexandre Girard à la réalisation et Alexandre Dezurmont au micro.
Voilà,
merci Alexandre.
Et Gaëlle Renard au micro aussi. Merci beaucoup.
Merci à vous. La soirée continue sur FIP.